Bienvenue sur le podcast Heureux au présent. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Bienvenue à notre 72e rendez-vous qui s'intitule « Je déteste la méditation ». Si la seule idée de méditer vous hérisse le poil, vous êtes les bienvenus sur ce rendez-vous. Et si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous êtes concerné par ces personnes qui détestent la méditation. Et si je vous en parle, c'est parce que je fais partie de ce profil-là depuis de nombreuses années, des années pendant lesquelles j'ai eu beaucoup de peine à méditer. Je déteste la méditation comme si cette pratique n'était pas dans mon ADN. Alors certains me diraient que personne n'a la méditation dans son ADN, seulement je suis de ceux qui veulent profiter des avantages de la méditation sans avoir à subir une pratique que je trouve trop plan-plan, trop gnangnan. Alors si vous êtes dans ce cas-là, eh bien restez avec moi. Bonjour à tous, bonjour à vous, monsieur, madame, mademoiselle, jeune, moins jeune. Vous êtes tous les bienvenus pour ce rendez-vous un peu spécial parce que comme vous l'entendez, je suis en nature, dans un cadre que j'ai entre guillemets choisi. Et vous allez comprendre dans quelques minutes la raison pour laquelle ce rendez-vous se passe dehors aujourd'hui. Alors c'est assez paradoxal que quelqu'un comme moi déteste la méditation parce que je pratique la sophrologie. Et en tant que praticien en sophrologie, j'utilise une technique pour centrer son attention sur une partie de son corps, comme on le fait dans l'hypnose ou d'autres techniques. Et en faisant cela, on se rapproche beaucoup de ce que l'on vit dans la méditation. On dit par exemple à une personne « Centrez votre attention sur votre cuir chevelu et cherchez à y installer la détente. À présent, amenez cette détente sur votre front, puis sur vos tempes, etc. etc. » Vous voyez qu'on est dans une approche similaire à celle de la méditation et que je l'utilise dans ma pratique professionnelle alors que personnellement, je ne suis pas spécialement fan, je dirais. À vrai dire, je vous ai introduit l'approche de la sophrologie assez rapidement puisque dans la pratique, on travaille sur une approche rythmique bien plus lente pour ralentir le fonctionnement physiologique et respiratoire, puis évidemment émotionnel. C'est ce qui facilite la centration sur ses propres sens que l'on appelle les perceptions sensorielles corporelles. Dans la méditation, on sera dans une approche qui sera convergente avec cette technique de la sophrologie que je viens de rapidement brosser. Et pour certains, elle est pénible parce qu'ils ont besoin d'action. Peut-être est-il aidant de comprendre la raison pour laquelle la méditation est difficile pour vous. Un des éléments qui explique ce dégoût, c'est donc en général qu'on est très actif, très créatif, et que l'on aime que ça bouge, que ça avance, et que la vie soit comme une forme de défi successif. On a envie de difficultés, et du coup, on est mal à l'aise avec cette notion de méditation. Si vous vous reconnaissez dans ces personnes-là qui ont besoin d'une approche qui soit vraiment dynamique, eh bien, vous vous reconnaissez sans doute dans ces difficultés à vivre la méditation. Un des éléments qui compose la situation ou qui permet de mettre la puce à l'oreille sur les raisons pour lesquelles vous avez une difficulté avec la méditation, c'est de savoir s'il vous arrive de vous poser quelque part sans être rapidement dans une grande réflexion en créativité galopante. Est-ce qu'il vous arrive de vous installer sans avoir l'impression que votre esprit switch d'un point à l'autre et d'un sujet à l'autre en permanence? Si vous vous rendez compte que vous êtes dans une dynamique très switch, cela signifie que vous êtes très, très créatif. Peut-être êtes-vous artiste. Cela expliquerait qu'il y a de grandes chances que ce soit difficile pour vous de vivre la méditation, bien que bon nombre d'artistes vivent la méditation. Hein. Tout dépend d'un profil, d'un tempérament aussi. La pensée est vraiment à la racine du fonctionnement cérébral qui va se fonder dans nos croyances. Et nos pensées allant se nourrir dans nos croyances à partir de nos expériences de vie, plus ou moins selon notre profil et grâce au milieu dans lequel nous avons grandi, nous avons appris à utiliser une approche plus ou moins dynamique dans laquelle nous serons en permanence sollicités. Évidemment, si nous avons une approche de la pensée plus posée, il nous sera plus facile de vivre la méditation. Pour ceux qui ont un esprit plus dynamique, je propose justement une marche intermédiaire qui se rapproche quelque peu de celle que j'ai proposée la dernière fois avec le cahier de vie. Cette méthode servira également comme le cahier de vie à ralentir la pensée. le fait d'écrire, qui équivaut à une action, ralentit le flot des pensées. Dans la démarche que je vous propose aujourd'hui, l'intention est donc la même, à savoir ralentir le flot des pensées. Ces deux réalités ne s'opposent pas. Il y a un temps pour tout, un temps pour réfléchir et un temps pour vivre en se dégageant de certaines habitudes de pensée. Il nous appartient à chacun d'apprendre à se contrôler pour créer ses pensées dans un temps ou créer un temps dans lequel on va cesser de penser ou ralentir le flot des pensées. Je pourrais prendre l'exemple de la musique. Quelle que soit la musique que vous écoutez ou que vous jouez, elle est composée de temps dans lesquels il y a beaucoup d'informations et des temps de silence. Symboliquement, la présence d'un jeu instrumental, d'une voix, symbolise la pensée. Elle est alors suivie d'un temps de silence qui symbolise le temps de la méditation, par exemple. C'est comme s'il s'agissait d'une expérience de respiration avec ses alternances de contenu dynamique et ses absences de contenu. Ce dernier laisse place à un contenu à accueillir, qu'on appelle le silence. Cette démarche consiste à rester complètement éveillé à ce qui vous entoure. Je ne vous invite pas à fermer les yeux, à partir dans un autre état. Vraiment, on reste dans une réalité complètement éveillée, donc qui nécessite aucune posture particulière, les jambes croisées, les yeux fermés, etc. Restez donc dans votre environnement comme vous êtes. Vous pouvez être n'importe où, au bureau, dans un bus, dans un bois ou devant la machine à café pour vivre ce temps. Donc restez libre de le vivre intérieurement sans aucune incidence, sans aucune contrainte physique de posture ou de milieu, de lieu. Du coup, vous resterez en connexion avec votre environnement, en relation avec ce qui vous entoure, qui est connecté à vous. Alors là, je me trouve dans un endroit calme, avec de la nature autour de moi, une petite brise qui souffle légèrement, quelques avions qui passent, et que vous avez peut-être entendu à l'instant. Il y a quelques oiseaux, et je vais donc rester connecté à cet environnement, connecté dans cet environnement, pour rajouter cette notion d'appartenance quelque part. Tout en étant dynamique, je vais prendre conscience que je fais partie de cet environnement. Je ne suis pas simplement un élément dans cet environnement, comme une sorte de météorite tombée là. En réalité, je suis dans un environnement dans lequel je suis immergé et dont je fais partie. En observant, je vois les plantes qui m'entourent, qui bougent autour de moi, ballottées par le vent. Elles sont vivantes et je réalise que je suis environné de vie. Prendre conscience que je fais partie de cet environnement est déjà un élément touchant à la méditation. Alors que je reste dans la dynamique du mouvement qui appartient à la vie, je vis cette vie-là en moi. D'ailleurs, je la sens tellement, cette vie, que je vois mes pensées qui switchent d'un point à l'autre. C'est vraiment une de mes caractéristiques, moi qui suis très créatif. Je ne me suis pas beaucoup présenté à vous. Et vous savez maintenant que je suis très, très créatif. Par exemple, s'il m'arrive de me mettre à composer une chanson, parce que je suis aussi auteur, compositeur, interprète, il faut que j'évite de le faire trop près de l'heure de mon coucher, parce qu'autrement, mon cerveau partira dans tous les sens. Cela équivaudrait à battre les œufs de mes pensées en neige, au point de ne plus avoir de place dans mon cerveau pour y accueillir le repos. Donc dans cet esprit-là, dans l'environnement de nature que je viens de vous décrire, je vais laisser les éléments qui sont autour de moi vivre leur vie et laisser mes pensées jaillir. Je vais les accueillir comme faisant partie de la vie, comme si elles sont ballottées par le vent. Je ne contrôle rien. Je ne cherche pas à contrôler. Mes pensées défilent et j'en prends connaissance. Je viens de voir les brins d'herbe qui sont là, juste devant moi. Puis, je pense à des choses variées. Je pense à ma femme. Puis je reviens là, à ce qui m'entoure. J'entends au loin une voiture qui vient de passer. Je vais adopter une approche esthétique, artistique, dans le regard que je pose sur mon environnement. Et du coup, je peux me dire, j'aime bien ce paysage, je le trouve beau. Le même travail de méditation pourrait se faire si je trouvais cet environnement moche. D'ailleurs, prenons justement l'hypothèse que je le trouve moche, ce qui sera plus intéressant parce que c'est moins naturel que de le trouver beau. Alors, si je trouve ce paysage moche, et dans le cas présent, je vais le conserver l'hypothèse d'un paysage moche, je prends conscience que je suis dans un jugement. Tiens, je suis dans un jugement. Je me rends compte que j'ai besoin de juger. Même si mon jugement n'est pas en relation avec une volonté de condamner, je suis malgré tout dans un jugement, dans une évaluation. Si je trouve une chose bonne, je serai de la même manière dans une évaluation, un jugement. Finalement, le jugement n'est pas forcément condamnatoire. Je prends conscience d'être dans un jugement face à ce paysage que je trouve moche pour telle et telle raison. Qu'est-ce que je pourrais retrouver dans mon histoire, dans le fil de mes pensées, dans mon espace personnel, qui font que j'ai une réaction présente qui répond à une loi intérieure me conduisant à projeter ou à penser que ce paysage est moche. Je prends conscience que c'est dans mes croyances que ce paysage est moche. En soi, ce paysage n'est ni moche ni beau. Même si je disais qu'il est beau, ce serait pareil. Je prends vraiment conscience que cette manière d'évaluer se trouve dans mes croyances. D'un coup, vous voyez que dans quelques minutes, je me retrouve enraciné dans mes croyances. Je vis une expérience personnelle en connexion profonde avec moi-même, avec mes propres croyances. Qu'importe la manière dont les choses sont construites, je prends conscience que ma manière de percevoir le monde prend racine dans mes croyances. Cela signifie que si je change ne serait-ce qu'une seule de mes croyances, ma perception changerait d'un coup. Elle changerait de nature et pourrait être complètement différente, sans être forcément opposée. Je partirais peut-être de quelque chose de moche que je trouverais éventuellement bof ou neutre. Je pourrais même penser que ce paysage est pas mal. C'est une manière d'exprimer que je vois très régulièrement présente dans notre environnement. Voilà, les gens qui trouvent que ça, oui, c'est pas mal. D'ailleurs, pas mal est négatif. Même si l'intention est d'être positif, c'est une expression qui contient du négatif. Là, je suis en train de plonger dans mes croyances. Peut-être que je peux lister des croyances que je trouve moches en moi. Après tout, il serait plus juste de parler de ce que je juge, puisque nous parlions de jugement à l'instant. Je continue à regarder cette nature qui vit autour de moi, avec ces plantes qui bougent, et même si personnellement, moi qui trouve que la nature est belle autour de moi, je continue à la trouver belle, je prends conscience que la beauté que je trouve autour de moi inclut les plantes qui sont mortes. Comme celle-là que vous voyez là, elle est morte. Elle est morte et fait partie d'un paysage que je trouve personnellement beau. Je ne parle pas uniquement de cette plante-là. C'est peut-être celle-ci et les milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de plantes mortes qui sont autour de moi et qui font partie de ce beau paysage. Il m'est même arrivé de voir des arbres morts et de les trouver beaux. Cette perception vient bousculer certaines croyances sur la vie, sur la mort, sur le moche, comme sur le beau d'ailleurs. Le beau est forcément vivant, et le mort est forcément moche, horrible, effrayant. Pourtant, la mort n'est pas forcément effrayante. Le mort ne l'est pas forcément non plus. D'ailleurs, je me souviens très bien de certaines obsèques que ce soit d'un homme ou d'une femme, d'ailleurs, qui se trouvait pendant la veille du corps. Je ne me souviens pas avoir entendu un conjoint dire de son mari ou de sa femme qui était couché dans le cercueil « Mais qu'est-ce qu'il est moche maintenant qu'il est mort ?» Non. La mort peut être autre que synonyme de moche. Et je continue à plonger dans mes croyances, prenant conscience que je suis en train de chambouler des réalités profondes qui sont là, dans mes croyances. Je prends une profonde inspiration et je souffle lentement par la bouche, en me disant en même temps que c'est bon de se chambouler soi-même. C'est bon de se laisser interroger par la vie quelque part. Je dirais que c'est bon d'être vivant, parce que cela me permet de sortir d'une posture figée, bloquée, et de continuer à accepter la remise en question. Je choisis d'accepter l'évolution, le mouvement. Qui dit vie, dit mouvement. Même les minéraux sont en mouvement. Même les métaux. J'inspire profondément. Et je continue à expirer lentement par la bouche. Là, je sens mon ventre se gonfler quand j'inspire, puis se dégonfler quand j'expire. Je réalise que je viens de vivre un bon moment, encore un jugement, et un beau moment, ce qui est encore un jugement. Je viens de vivre un moment qui me fait du bien, dans lequel j'ai créé le bien pour moi, ce qui est encore un jugement. Vous voyez comme nous sommes installés dans le jugement, même si ce n'est pas forcément négatif hein, ou condamnatoire, cela reste un jugement. Vous êtes capable de juger sans condamner. N'est-ce pas un pas vers la vie? Avoir un avis non enfermant, donner un avis sans l'imposer, juger en restant ouvert et sensible est une chose possible. Allez, c'est bon, je m'arrête là. À votre tour. Faites-le. Souvenez-vous que je déteste la méditation tout comme vous. Mais en même temps, vous avez compris tout l'intérêt qu'il y a à prendre quelques minutes pour se ressourcer, se recréer, laisser la vie reprendre son cours en vous sans chercher à la contrôler. Effectivement, la méditation peut vous y conduire. Mais vous pouvez, dans une approche dynamique, inviter cette réalité en vous pour l'y installer aussi. Maintenant, choisissez un endroit qu'il vous plaise ou pas. J'ai fait exprès d'imaginer un lieu moche parce que même si l'endroit ne vous plaît pas, vous pouvez décider de créer votre bonheur là, dans l'endroit qui ne vous plaît pas. Et vous pouvez créer votre bulle et vivre votre expérience pour installer votre bonheur et vivre votre vie de l'instant au mieux. Allez, on y va ? Allez les heureux de heureux au présent, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Je vous remercie et vous félicite d'avoir été présent à ce rendez-vous. Évidemment, je souhaite que vous viviez et pratiquiez les exercices que vous avez entendus, intégriez les notions que vous avez comprises, et puis que vous puissiez partager avec les gens qui sont autour de vous, aller sur les réseaux sociaux, donner votre avis, poser vos questions, mettre vos commentaires. Vous avez tous les moyens pour faire cela, quel que soit le réseau social que vous utilisez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.